Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Marc 2, verset 18 à Marc 3, verset 6. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnèrent. Ils dirent à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le mari est avec eux ? Aussi longtemps que le mari est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le mari leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde !» Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiathar, a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ? De sauver une personne ou de la tuer. » Mais ils gardèrent le silence. Alors, il promena sur eux un regard de colère. Et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Ésaïe 1, versets 13 à 18. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Galates 1, versets 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
Depuis la première Pentecôte, l'Éternel envahit le cœur des croyants par son esprit. C'est sur son œuvre que nous comptons encore aujourd'hui. Or, comme chaque dernier dimanche du mois, nous ouvrons le journal de Pierre écrit par Marc le journaliste. Pierre a vécu les événements de ces trois articles que nous avons aujourd'hui devant les yeux dans Marc 2, 18 à 3, 6. Le dernier article que nous avions vu parlait de Jésus qui a appelé un collecteur d'impôts à le suivre. Et avec ses disciples, il est allé festoyer chez lui, chez Matthieu Lévi, entouré des péagers et des pêcheurs. Les pharisiens sont choqués. Eux, les garants de l'anticorruption visible, les opposants de l'occupant romain qui prennent des taxes, les extérieurement purs qui s'éloignent des pêcheurs, les pharisiens parlent derrière son dos aux disciples de Jésus. Mais le maître entend, il entend tout, même ce qui est dit dans le cœur. Et Jésus le répond par cette phrase extraordinaire, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. » Quel rafraîchissement pour tous ceux qui sont conscients d'être pécheurs. Il est venu pour nous. Les pharisiens ne semblent décidément pas avoir compris que Jésus ne les exclut pas des pécheurs pour qui il est venu. Ces hommes des lois humaines mélangées à la loi de Dieu s'accrochent au formalisme. C'est leur façon de vivre, de paraître et de se justifier. Ces hommes de loi humaine mélangés à la loi de Dieu s'accrochent au formalisme car c'est leur façon de vivre, de paraître et de se justifier. Jésus, avec tact, écarte le formalisme en répondant aux pharisiens et nous permet de comprendre sa bonne nouvelle. La prédication d'aujourd'hui a donc pour titre « Bonne nouvelle, Jésus écarte le formalisme ». Les trois événements relatés par notre journaliste ont chacun au moins ces trois aspects. Le premier, le formalisme des pharisiens. Le deuxième, la réponse de Jésus. Et le troisième, la bonne nouvelle de Jésus. Ce seront nos trois points, mais avant de nous y plonger, rappelons-nous avec nos mots ces trois événements que j'intitule le jeûne et l'époux, les épis du sabbat et la main sèche et le sabbat. Ces trois événements, le jeûne et l'époux, les épis du sabbat et la main sèche et le sabbat. Pour le jeûne et l'époux, nous voyons les disciples de Jean-Baptiste venir avec les pharisiens vers Jésus pour une question. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme les autres? La pratique du jeûne est ici formaliste, comme nous le verrons. Jésus leur répond en utilisant l'une des règles qu'ils avaient mises en place concernant le fait de ne pas être autorisé à jeûner en étant invité au mariage. Puis Jésus termine par deux illustrations pour indiquer qu'il y a des choses que l'on ne peut pas mélanger. Le deuxième événement rapporté, les épis du sabbat, notre journaliste nous parle d'un incident qui s'est déroulé dans les champs de blé, où les disciples arrachent des épis en passant pour les manger, comme cela était autorisé selon Deutéronome 23-26. Mais les pharisiens sont aux aguets, et comme c'est le jour du sabbat, ils ne manquent pas l'occasion de dire à Jésus que ses disciples font ce qui n'est pas permis selon leurs règles formalistes. Jésus ne fait ici plus de référence à leurs règles, mais à la parole de Dieu, avec un exemple d'une situation de nécessité où ce qui n'est pas permis est enfreint sans conséquence. Jésus termine en indiquant qu'il est le maître du sabbat et que l'homme n'a pas été créé pour servir le sabbat. Troisième événement rapporté, la main sèche et le sabbat. Cet événement se déroule dans une synagogue dans laquelle un homme ne pouvait plus utiliser une main. C'était donc handicapant. Les pharisiens qui commencent à comprendre que Jésus ne laisse pas tomber les malades, mais qu'il les guérit, sont très attentifs. Et dans leur formalisme, toute forme de travail le jour du sabbat est interdite, même pour les médecins, s'il n'y a pas de danger de mort. Si Jésus guérit, ils vont l'accuser devant tous. Mais Jésus connaît leur cœur. Il sait que les pharisiens sont prêts à bondir et il répond à leur attitude en leur posant une question pénétrante qui oppose ce qu'il fait à ce que les pharisiens font. Jésus termine par deux sentiments très forts provoqués par l'endurcissement des pharisiens, la colère et la tristesse. Et il guérit l'homme à la main infirme. Voilà, maintenant que ces trois événements de jeûne et de l'époux, des épis du sabbat, et de la main sèche et le sabbat sont vifs dans notre mémoire, nous sommes prêts pour nos trois points. Donc, le formalisme des pharisiens, la réponse de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Commençons par le formalisme des pharisiens. Commençons par bien comprendre ce terme, que nous avons maintenant entendu déjà 9 fois. Le formalisme, selon le dictionnaire, c'est l'attachement scrupuleux aux formes extérieures, aux règles de la vie religieuse, dans ce contexte. Nous pouvons aussi dire que c'est un attachement excessif aux règles, aux rites, aux coutumes. Si je le dis simplement, le formalisme, c'est montrer aux autres, par des actions visibles, que nous faisons tout juste, peu importe que cela reflète une réalité intérieure ou non. C'est la forme qui compte, pas le fond. C'est tout l'inverse des Aïe 1, 13 à 18, que nous avons entendu tout à l'heure. Le formalisme, c'est montrer aux autres, par des actions visibles, que nous faisons tout juste. Peu importe que cela reflète une réalité intérieure ou non. C'est la forme qui compte, et pas le fond. C'est tout l'inverse des Aïe 1, 13 à 18. Le formaliste sera intransigeant sur la manière de vivre, jusque dans des détails ridicules, comme la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin. Dans Matthieu 23, 23, c'est comme si vous donniez la dîme des sachets de thé que vous achetez. L'article du journaliste Marc sur le jeûne et l'époux nous permet de voir le jeûne formaliste. Le jeûne formaliste. Les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine, comme le dit le pharisien qui prie devant le publicain en Luc 18, 12. Et selon les écrits historiques, c'était le lundi et le jeudi. Or, tout le monde reconnaissait les formalistes qui jeûnaient, car ils avaient un visage défait, un air triste, afin que tout le monde sache qu'ils jeûnent pour ainsi être admirés pour leur dévotion. C'est Jésus qui nous l'apprend dans Matthieu 6, 16. Tout le monde reconnaissait le formaliste qui jeûnait, parce qu'il avait un visage défait, un air triste, afin que tout le monde sache qu'ils jeûnent pour ainsi être admirés pour leur dévotion. Mais savez-vous que la parole de Dieu n'exige pas ces jeûnes réguliers? Il y a un jour dans l'année où l'Éternel demande à son peuple d'humilier son âme. C'est le jour des expiations. Mais en fait, vous ne trouverez aucun ordre dans la loi qu'il faut jeûner. Les jeûnes que nous trouvons dans la Bible sont des jeûnes volontaires. Les pharisiens avaient établi des règles qui indiquaient un degré supérieur de spiritualité par le jeûne, alors qu'il n'est même pas exigé par la parole de Dieu. C'est du formalisme. C'est de ce jeûne-là qu'il est question lorsqu'il demande à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Une remarque ici concernant les personnes qui posent la question à Jésus. Il y a aussi des disciples de Jean-Baptiste avec les pharisiens. C'est triste. Car cela montre que certains n'ont pas compris quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » ou encore « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est un avertissement à ne pas s'attacher à une personne plus qu'à Jésus-Christ. Oui, vous pouvez connaître un chrétien, un pasteur, une monitrice de camp que vous appréciez, qui vous a montré Christ, mais il ne faut jamais s'accrocher plus à cette personne qu'à Jésus-Christ. Sinon, vous allez devenir formaliste et accompagner les pharisiens vers Jésus pour lui reprocher de ne pas faire à ses disciples ce que votre mentor trouve bon. Deuxième article, l'événement des épis du sabbat nous permet de réfléchir au sabbat formaliste. Dans le Talmud, texte fondamental du judaïsme rabbinique, vous trouverez une 20aine de chapitres qui insistent sur les règles en lien avec le sabbat. Vous trouverez des règles pour toutes sortes de choses et bien des manières de les contourner tout en faisant semblant de les suivre. Comme par exemple, la distance qu'il est permis de parcourir est de 1 km. Mais si quelqu'un plaçait de la nourriture à 1 km moins 1 mètre avant le sabbat, l'endroit était considéré comme une extension de la maison. car il n'y a pas de limite de distance dans une maison. Je ne vous donne que cet exemple pour ne pas perdre notre temps. Mais juste en passant, comment les pharisiens ont-ils pu respecter le kilomètre de distance alors qu'ils sont avec Jésus et ses disciples au milieu des champs de blé? Quoi qu'il en soit, les disciples qui prennent des épis ne respectent pas la loi rabbinique, car en cueillant les épis, ils moissonnent. En écrasant les épis dans leurs mains, ils battent le blé. En jetant ce qui entoure le grain, ils vannent. Et en mangeant le grain qu'ils ont nettoyé, ils ont préparé un repas. Aucune de ces actions n'est permise le jour du sabbat selon les règles rabbiniques, et Jésus ne dit rien. Les pharisiens ont mis tellement de règles le jour du sabbat que les juifs ne se reposent plus ce jour-là, mais se demandent à chaque geste s'ils n'ont pas enfreint une règle. C'est le formalisme. Et le formalisme enferme et met un joug très lourd sur les personnes. Les pharisiens ont mis tellement de règles le jour du sabbat que les juifs ne se reposent plus ce jour-là, mais se demandent à chaque geste s'ils n'ont pas enfreint une règle. C'est le formalisme, et le formalisme enferme et met un joug très lourd sur les personnes. Le troisième événement dans la synagogue avec l'homme à la main sèche nous montre que le formalisme va jusqu'à rejeter ses propres valeurs. Les pharisiens sont tellement en colère contre Jésus qui ne respectent pas les lois rabbiniques, alors qu'ils respectent totalement la parole de Dieu. Ils sont tellement en colère qu'ils vont se lier à leurs ennemis, les Hérodiens, pour trouver un moyen pour faire mourir Jésus. Mais les pharisiens étaient fiers de leur sang juif. Ils désiraient garder leur religion de toute souillure. Ils détestaient les Romains qui s'en mêlaient dans leurs affaires. Les Hérodiens, au contraire, étaient amis avec les Romains, avec qui ils s'étaient alliés pour gouverner. Ils détestaient les pharisiens et les pharisiens détestaient les hérodiens. Pourtant, la haine contre Jésus, qui vivait parfaitement la loi de Dieu, mais pas celle des rabbins, les a poussés à se lier entre ennemis pour éliminer celui qui ne voulait pas de formalisme et le démontrait. Le formalisme amène à rejeter celui qui ne suit pas ses règles. Aucune compassion, aucun pardon, aucune liberté. Le formalisme n'est pas le christianisme biblique. Le formalisme amène à rejeter ceux qui ne suivent pas ses règles, aucune compassion, aucun pardon, aucune liberté. Le formalisme n'est pas le christianisme biblique. Si quelqu'un qui entend cette prédication pense qu'être chrétien c'est prier, aller à l'église, jeûner, donner de l'argent aux pauvres et respecter le dimanche devant les autres, il pense aux formalistes et non à l'enseignement de Jésus. Parce que être chrétien, c'est être transformé à l'image de Christ. C'est le moment d'aller voir la réponse de Jésus, c'est notre deuxième point. La réponse de Jésus dans l'événement du jeûne et de l'époux, Jésus souligne l'incohérence de leur propre système. Vous dites que mes disciples devraient jeûner, mais vos règles rabbiniques interdisent la pratique du jeûne étant invité à un mariage. Si un membre de l'entourage des mariés refuse de manger parce qu'il jeûne le jour des noces, il se rend ridicule et il offense les mariés qui ont préparé la fête. Jésus est le Messie promis. Il est l'époux. Et tant qu'il est avec ses disciples, ils n'ont aucune raison de jeûner. Jésus est le Messie promis. Il est l'époux. Et tant qu'il est avec ses disciples, ils n'ont aucune raison de jeûner. Oui, lorsqu'il sera mis en croix, les disciples jeûneront, et je n'ai pas de peine à imaginer que les disciples, lorsque Jésus a été arrêté puis crucifié, n'avaient plus du tout envie de manger. Vous savez, le jeûne volontaire pour vivre un temps particulier avec Dieu, pour manifester sa douleur, pour marquer sa repentance, comme nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est tout autre chose, et ça ne fait pas partie de ce que Jésus enseigne ici. Jésus souligne que même dans leur propre système de jeûne formaliste, il ne pourrait pas le vivre. Et il expliquera ensuite la différence fondamentale entre ce qu'il annonce et ce que les pharisiens enseignent. Nous y viendrons au troisième point. Dans l'événement des épis du sabbat, Jésus souligne l'importance de la référence scripturaire. Lors des tentations, Jésus a répondu au malin « Il est écrit ». Ici, il fait de même, mais avec d'autres mots. N'avez-vous pas lu? Il ne prend pas l'exemple du sabbat pour ne pas les perdre dans leurs règles rabbiniques. Il prend un exemple en lien avec le service dans la maison de Dieu. David se trouve dans une situation de nécessité, il va chez le souverain sacrificateur Abiathar et lui demande à manger. Abiathar n'a rien d'autre que les pains consacrés réservés uniquement au sacrificateur. Regardez dans Lévitique 24:9. Pourtant, il les donne à David, lui demandant simplement d'être rituellement pur. La loi cérémonielle a été transgressée pour répondre à un besoin humain urgent. Et MacArthur dit avec raison que Jésus veut montrer qu'aux yeux de Dieu, la compassion à l'égard d'une personne l'emporte toujours sur la stricte observance du rite ou de la cérémonie. Jésus a répondu en citant la parole de Dieu, et elle lui donne raison. C'est ce que nous devrions toujours chercher aussi, que la Bible nous donne raison. Jésus a répondu en citant la parole de Dieu, et elle lui donne raison. C'est ce que nous devrions toujours chercher aussi, que la Bible nous donne raison. Non pas pour justifier nos idées, mais pour que nous soyons en accord avec cette parole. Et pour cela, il faut la connaître. Un footballeur qui ne joue jamais avec un ballon ne saurait pas le maîtriser. Un chrétien qui n'ouvre que rarement sa Bible ne saurait la connaître. La troisième situation de l'homme à la main sèche dans la synagogue nous montre la révélation du cœur. Lorsque Jésus voit que les pharisiens cherchent à lui faire du mal, et même par la suite à le tuer, il leur demande « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ?» ce que Jésus va faire. Ou de faire du mal, ce que les pharisiens font. De sauver une personne, ce que Jésus va faire. Ou de la tuer, ce que les pharisiens aimeraient faire de lui. Qui était à blâmer dans les actions qu'il faisait et allait faire? Il n'est pas étonnant que les pharisiens n'ont rien dit, parce que Jésus dévoilait leur cœur par sa question. Jésus indique ici que ce qui est vécu pendant le sabbat dépend premièrement de ce qu'il y a dans le cœur. Et la compassion centrée sur Dieu ne conduira jamais à une direction condamnable. Jésus indique ici que ce qui est vécu pendant le sabbat dépend premièrement de ce qui est dans le cœur. Et la compassion centrée sur Dieu ne conduira jamais dans une direction condamnable. Généralement, on ne me demande pas si nous pouvons avoir compassion de quelqu'un le jour du sabbat pour adorer le Seigneur, mais plutôt si on peut faire quelque chose qui fait plaisir à son ego, qui nous apporte un avantage. Jésus, par sa réponse, révèle le cœur. Dans un premier temps, il les avait renvoyés à leur incohérence, puis aux Écritures, et maintenant à leur cœur. Examinons nos incohérences, basons-nous sur la parole de Dieu et veillons sur notre cœur. Vous avez remarqué que nous n'avons pas parlé de ce que Jésus enseigne dans ces trois événements. C'est le moment de nous y tourner. J'ai intitulé cet enseignement « La bonne nouvelle de Jésus ». Le premier article nous parle d'une transformation totale. On ne peut pas mélanger le produit du mensonge et le produit de la vérité. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. On ne peut pas mélanger le judaïsme qui est par essence rempli de formalisme et l'évangile de Jésus-Christ qui en est totalement dépouillé. Quelle bonne nouvelle! Jésus n'est pas venu apporter un évangile qui se construit sur un salut à gagner par nos œuvres. Non, c'est un salut par grâce accompli par notre Sauveur qui nous conduit aux œuvres bonnes. Jésus n'est pas venu apporter un évangile qui se construit sur un salut à gagner par nos œuvres, non. C'est un salut par grâce accompli par notre Sauveur qui nous conduit aux œuvres bonnes. Le vieil habit ou la vieille outre, ce n'est pas l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est l'enseignement des formalistes. Car l'enseignement biblique de l'Ancien Testament mène à Jésus-Christ, qui est la nouvelle alliance. Par contre, l'enseignement rabbinique qui indique un chemin de salut par les œuvres n'est pas compatible, comme toutes les religions, qui en fait n'enseignent que le salut par les œuvres. Pour le bouddhisme, il faut éliminer même ses désirs. Pour le catholicisme romain, il faut faire pénitence et suivre les sacrements. Pour les musulmans, il faut faire le plus de bien possible, alors le djihad. Pour les hindous, il faut apaiser le plus de dieux possible, ce sont tous de vieux habits sur lesquels il n'est pas possible de mettre l'évangile de grâce. Car le nouveau tissu non lavé, qui serait mis sur le vieil habit, se rétrécirait au premier lavage et déchirerait l'habit. Car le vin nouveau, qui fermente et fait augmenter le volume, ferait éclater les vieilles outres de peau sèche qui ne sont plus élastiques. L'évangile ne peut se mélanger à rien d'autre. Et il est donné à de nouvelles créatures qui seules peuvent recevoir l'Esprit Saint. Quelle merveilleuse nouvelle ! Jésus amène une transformation totale et pas seulement une réparation chaotique. On ne peut pas vivre comme le monde, cette vieille outre, et prétendre recevoir le vin nouveau. Nous allons non seulement bénéficier de l'Évangile, étant pardonnés, purifiés, étant des héritiers, et nous allons également vivre selon l'Évangile, donnant la grâce, partageant l'amour, et voyant les autres au-dessus de nous-mêmes. Puis lorsque Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat, il indique une redirection fondamentale. Les pharisiens ont le regard dirigé vers le sabbat. Jésus les redirige vers le Créateur et maître du sabbat. Les pharisiens ont le regard dirigé vers le sabbat, et Jésus les redirige vers le Créateur et Maître du sabbat. Les pharisiens sont au service du sabbat. On pourrait dire que le sabbat est devenu leur Dieu, qu'ils le servent en appliquant une foule de règles pour lui faire plaisir. Jésus détourne de ce faux Dieu et tourne les regards vers celui qui a fait le sabbat, le Créateur, le Fils de l'homme lui-même. Jésus veut nous permettre de comprendre que lorsque nous nous tournons vers le maître du sabbat, c'est lui que nous adorons, et le sabbat devient un cadeau, un temps de repos, un temps d'adoration, un temps de compassion, un temps de paix, et non de peur de transgresser une règle. Le cycle de 6 jours de travail, avec 1 jour de repos mis de côté pour Dieu, est un cadeau à l'homme. Dieu aurait pu demander à l'homme de travailler sans arrêt, ce qui aurait été juste. Mais Dieu a choisi de lui donner 1 jour pour spécialement s'approcher de lui et se reposer de son travail de la semaine. Si nous cherchons des règles pour le jour du repos afin de savoir ce que l'on peut faire ou ne pas faire, ne sommes-nous pas en train de chercher à adorer le sabbat comme le faisaient des pharisiens? Si nous vivons ce jour pour nous approcher de Dieu, pour l'aimer plus, et pour nous réjouir en sa présence, il n'y aura plus besoin de chercher des règles, car notre cœur tourné vers l'adoration en direction de Dieu et vers la compassion en direction des autres nous guidera. Le problème, c'est que souvent l'adoration est dirigée vers nous-mêmes, la recherche de plaisir, de bien-être personnel, et que cela deviendra notre maître. Quelle joie d'être libéré de tous les maîtres tyranniques et de se retrouver sous l'autorité de celui qui a fait le sabbat pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Quel est votre maître? Le dernier événement avec l'homme à la main sèche est très poignant. Voilà pourquoi je l'intitule un avertissement poignant. Jésus est face à des hommes endurcis, qui ne pensent qu'à l'éliminer, des personnes complètement sous le poids de leurs règles, desquelles Jésus veut les sauver. Et les pharisiens ne cherchent que le mal. Jésus aura 2 réactions qui doivent toujours aller de pair. Il est en colère contre le mal, et il est triste en voyant les dégâts envers ceux qui font le mal. Et en plus, il fait le bien en guérissant l'homme malade. Jésus n'a pas guéri les pharisiens, ces formalistes, qui font semblant devant tout le monde d'être super spirituels, de connaître la vérité, et qui dans leur cœur sont remplis de meurtre. C'est un avertissement solennel pour tous ceux qui entendent le message de l'Évangile, qui dit que Jésus est venu sur terre pour prendre la place du pécheur sur la croix, et que celui qui croit est sauvé et purifié pour vivre une vie qui plaise à son Créateur. Tous ceux qui entendent le message de l'Évangile et qui le refuse sont comme les pharisiens. Tous ceux qui entendent le message de l'Évangile qu'ils refusent sont comme les pharisiens. Jésus les regarde avec indignation et tristesse. Jésus les regarde avec indignation et tristesse. Ne croyez pas que Jésus vous regarde avec compassion si vous ne voulez pas de lui. Il ne va pas vous courir après. Il n'est pas à votre service. C'est lui qui est Dieu. Et vous êtes sa créature. C'est lui qui est Dieu. Et vous êtes sa créature. Mais si vous venez à lui, confessons que vous avez bien souvent cherché à paraître bien, mais au fond de vous-même, vous saviez que ce n'était pas vrai. Si vous lui demandez humblement pardon, il n'aura plus de regard d'indignation et de tristesse, mais un regard de compassion et de joie. Si vous venez à lui, confessant que vous avez bien souvent cherché à paraître bien, mais au fond de vous-même, vous saviez que ce n'était pas vrai. Si vous lui demandez humblement de vous pardonner, il n'aura plus de regard d'indignation et de tristesse, mais un regard de compassion et de joie. En conclusion, comprenons que le formaliste cherche à plaire aux hommes, alors que l'Évangile donne la joie de plaire à Dieu. Souvenez-vous du texte de Galates 1, 6 à 10 que nous avons lu au début. Fuyez le formalisme, ce joug terrible qui vous fait demander à tout instant si vous faites juste, et courez vers Jésus-Christ qui nous fait entrer dans le vrai repos de l'âme. Il a fait tout juste pour nous et nous entraîne à sa suite. Vous comprendrez alors ce que signifie « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Nous allons prier. Éternel notre Dieu, quelle grâce d'avoir ta parole. Ta parole qui nous ouvre les yeux et qui nous permet d'être libérés du formalisme. Quelle grâce de savoir que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous dire quelles règles nous devons suivre, mais il est venu pour nous libérer du péché. Et Seigneur, tous ceux qui s'approchent de toi qui te demande pardon parce que nous comprenons que nous avons péché et nous comprenons que Christ a tout accompli. Tu nous pardonnes. Aide-nous, Seigneur, à le vivre aussi dans notre vie, à le saisir que nous sommes réellement pardonnés et à pardonner aussi réellement aux autres. Par ta grâce, avec ta force et sans mettre des règles inutiles qui nous poussent à nous penser supérieurs, non, Seigneur. Nous nous rendons bien compte que nous avons besoin de toi à chaque instant et nous nous réjouissons de savoir que tu nous as amené un évangile de grâce. Permets que cela soit vécu dans nos vies, dans tout ce que nous vivons, chaque jour, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.